Bienvenue dans Chambres adolescentes, le podcast. Des portraits en photo et en mots réalisés par Juliette Masse et Jovitech à retrouver sur www.chambresadolescentes.fr.
Oumar, 17 ans, sa chambre est à Pézenas, dans l'Hérault. Une chambre tranquille pour voir l'avenir. Le 8 septembre 2021, 19h. Oumar nous attend en short, t-shirt bleu et tongs sportives dans l'une des plus belles rues du centre historique de Pézenas. Nous sommes en septembre, les touristes sont moins nombreux et les Pissénois, comme lui, aiment à flâner en tenue d'été dans leur jolie ville, au patrimoine admirablement préservé, comme en témoigne la porte avec heurtoir de l'immeuble en pierre où réside Oumar. Il nous avoue avoir un peu halluciné d'atterrir dans un tel endroit. « J'ai jamais habité dans un immeuble comme ça, dit-il. J'avais un peu peur au début. C'est grand. » Nous le suivons au premier étage et débouchons sur un agréable appartement. Une grande pièce à vivre, haut de plafond, qu'il partage avec deux colocs, un Guinéen et un Malien, qu'il appelle ses collègues. La cohabitation se passe bien. Le linge sèche sur l'étendoir, la cuisine est rangée, l'appartement entretenu. Cela fait partie du règlement intérieur. Les jeunes accueillis doivent faire le ménage, les courses, leur cuisine. Pour Oumar, ça pose pas de problème. Il aime l'ordre et tous cuisinent chacun à leur tour ou parfois mangent seuls, suivant leurs envies. Souriant, il nous propose de le suivre au bout du couloir et nous invite dans sa chambre. C'est petit, sobre. Un lit, un bureau, une table de nuit, une armoire. Tout est blanc, comme les murs. Rien de très personnel en décoration, à part deux photos encadrées et un drapeau du Montpellier Hérault Sport Club. Oumar nous avoue que tout était agencé comme ça à son arrivée. Il n'a touché à rien. Il règne pourtant une atmosphère paisible dans ce petit bout de chez lui qu'il a choisi pour le calme, justement. La fenêtre en bois donne sur une courette où les voisins du dessous entretiennent un jardin avec lampion. C'est coquet. On entend les oiseaux à 7 heures de fin de journée. Oumar va nous chercher des chaises. Il s'assoit face à nous, le dos bien droit, les pieds vissés au sol. Son allure sportive et tonique tranche avec l'incroyable douceur de sa voix et de son sourire. On le sent prêt. Un peu impressionné, mais disponible, même après sa journée de travail. Il est en apprentissage de carreleur à Béziers. 19h sonne, aux cloches de la collégiale Saint-Jean, l'une des rares églises françaises où sur la façade est inscrit « Liberté, égalité, fraternité ». L'entretien peut commencer.
Mais après, je vais rester ici à vivre. Ouais.
Ça a été un accueil super.
Ouais, j'aime bien.
Tu vas rester ici.
Hein. Oui, c'est là-bas que j'ai commencé l'école, là-bas j'ai commencé la bonne vie normale. Hein.
Une bonne vie normale. On ne mesure pas ce que cela signifie quand on n'a pas bataillé pour l'obtenir. On s'en plaint même souvent de cette vie banale tant on la voudrait exceptionnelle. On peut même pas imaginer qu'un gamin de 14 ans ait parcouru des milliers de kilomètres et risqué sa peau en Méditerranée pour avoir la possibilité de faire des études, des devoirs, d'avoir des loisirs, un toit protégé, de faire son ménage, sa lessive et de se balader le dimanche bien sapé avec les copains, d'écouter la musique sur son lit ou bien d'allumer la télé quand il y a du ballon ou bien un Macron qui va parler. Oumar, du haut de ses 17 ans, avec sa voix douce, ses yeux pétillants, va en toute simplicité et en français nous le rappeler. Depuis 2 ans, il a été pris en charge par l'association Samanras de Pézenas. Sous la protection de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, il vit dans cette chambre, respecte le règlement intérieur accroché à son mur et ne cesse de répéter que ça se passe bien pour lui. Il nous dit qu'il peut sortir le mercredi jusqu'à 23h et le week-end jusqu'à minuit. Les mineurs sont ici logés dans des appartements en centre-ville, par groupe de 2, de 3 ou de 4, entourés par les éducateurs de l'association et des bénévoles comme Jean-Luc, Fanny, qu'il peut appeler dès qu'il a besoin d'aide. Il avance bien. On sent qu'il n'y a rien de plus important pour lui que de progresser, c'est-à-dire faire des études, apprendre la langue, s'ouvrir aux autres. Oumar parle le malinké, langue largement parlée en Afrique de l'Ouest. Il parle aussi le soussou, l'une des trois langues majeures de la Guinée, avec le malinké et le pouloir, et un peu de français, s'excuse-t-il humblement, alors que vraiment, il s'exprime très bien. Son arrivée en France date du 11 mai 2019, pas près de l'oublier. C'était après 5 mois passés en Italie dans un centre pour mineurs isolés, où pour lui ça ne s'était pas très bien terminé. Oumar nous raconte cet épisode avec franchise, le regard triste, encore choqué par le comportement de l'éducateur italien.
Ben moi, le campo là-bas, un juge n'était pas d'accord avec l'éducateur qui était là-bas. Mais je n'étais pas d'accord avec lui. Donc un jour, je prends un gobelet. Vous connaissez le gobelet? On ne sait pas. Un gobelet comme ça pour boire de l'eau avec ça. Donc la nuit, moi je bois beaucoup de l'eau. Je prends un gobelet, ma cuisine. Je remplis de l'eau, je montais ça dans ma chambre. Et le matin, il est venu. Il m'a dit non, ben, tu n'as pas le droit de boire, de prendre cela, de venir. Si tu as envie de boire de l'eau, il faut aller aux toilettes, de boire de l'eau. Moi, j'ai dit, ah monsieur, mais comment est-ce que toi, même tes enfants à la maison, est-ce qu'ils partent aux toilettes pour boire de l'eau? Ben, le parole là qui le fait mal, il m'a dit, moi, je lui manque de respect. Il m'a donné un souffle. Il m'a donné un souffle parce que moi, j'ai dit cela. Puis moi aussi, j'ai énervé contre lui. Après, j'ai pris mon sac, je suis sorti.
Et t'es parti?
Moi, je suis parti.
Ah, t'es parti?
Moi, je suis parti.
Oumar a 16 ans à ce moment-là. Il se retrouve de nouveau à la rue, seul, rencontre un homme qui lui paye le voyage, passe la frontière française et puis prend un train, direction l'Espagne. Dans le TGV, il se fait contrôler. Sans titre de transport ni papier, l'agent lui demande de descendre à la prochaine. Ça sera Montpellier. Il est 23 heures passées. Il s'installe sur un banc pour dormir, mais un vigile le réveille et lui explique qu'il ne peut pas rester. Les gares ferment aujourd'hui, comme les jardins publics, nulle part pour se reposer. Le vigile le sait, et découvrant que le garçon est seul, isolé et mineur, il appelle la police pour une prise en charge. Oumar se retrouve au poste, montre son extrait de naissance qu'il a toujours sur lui, explique son chemin, le pourquoi, le comment. Et après 2 heures d'interrogatoire, il se retrouve au milieu de la nuit dans un hôtel social. Le lendemain, il est confié au service d'accueil des mineurs du département. Il restera 3 mois en ville, où il rencontrera d'autres jeunes, dont Sekou, son ami guinéen qu'il voit le week-end désormais. À Montpellier, il prend des cours de français langue étrangère, avant d'être confié à l'équipe de Pézenas. Là, loin du grondement de la grande ville, écouté et entouré par ses éducateurs, Eric, Défi, Natacha, il a enfin la sensation d'être arrivé quelque part.
Ouais, l'association... je suis content d'être avec eux parce qu'ils sont gentils, ils sont cool avec nous. Donc, quand même, lorsque je suis rentré jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu aucun problème. Tout passe bien. C'est ici que j'ai commencé bien à ma vie tranquille.
Un peu posé, quoi.
Exactement. Activité ici, c'est ici que j'ai commencé. Donc, je trouve que ici, c'est cool pour moi. Hein.
Arrivé le premier dans l'appartement, il peut choisir sa chambre. Au départ, on lui dit qu'il y a 3 chambres, qu'il doit choisir. Et il prend celle-là parce qu'il la trouve « cool », dit-il. Il regarde tout, il vérifie tout. Et ouais, il prend celle-là parce qu'elle est propre et nickel. C'est là, en sécurité, dans cette chambre au mur blanc et meublé, qu'il peut enfin s'autoriser à retrouver ses goûts, ses envies, ses idées, et puis commencer à imaginer l'avenir. De son passé, il ne lui reste rien. Il nous dit qu'il est parti avec un petit sac et puis que les vêtements dedans, ils ont moisi. Les silences sont nombreux. Nous les respectons, sans ne jamais l'interroger sur le pourquoi ni le comment du voyage, qu'il a dû déjà tant de fois raconter au service administratif comme à la police. Nous évoquons sa passion du foot, de son joueur préféré Messi, et le bonheur qu'il a eu d'aller avec ses éducateurs et les autres jeunes voir un match PSG-Montpellier au stade de la Mosson. Il pratique d'ailleurs le foot assidûment, 2 fois par semaine, au stade de Pézenas, qui est son endroit préféré parce que, nous dit-il, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour rencontrer d'autres jeunes, sauf au stade. C'est un peu ce que nous diront la plupart des adolescents rencontrés par l'association. Pas si simple de se mélanger, pas évident de supporter certains regards ou réflexions quand on est un déraciné. Il nous dit « C'est difficile de rencontrer les gens ou d'être amis, c'est un peu difficile parce qu'ils ne nous aiment pas, même à l'école, beaucoup ne nous aiment pas. Regard de travers, peur de la différence, méchanceté, racisme ordinaire d'un côté, timidité, barrage de la langue de l'autre. C'est pour cette raison qu'Oumar s'accroche à l'école et à sa formation. Pour cette raison aussi qu'il s'est inscrit dans notre projet. Oumar veut parler, échanger, il est curieux, et il souhaite trouver sa place dignement ici, et se faire accepter avec sa culture, son passé, son point de vue. D'ailleurs, à la fin de l'entretien, il se met à parler du pays, des différences culturelles entre la France et la Guinée, dont il est parfaitement conscient. Même s'il est un étudiant d'Occitanie comme les autres, qui écoute sa musique sur l'ordi rouge offert par la région, il sait que cette chambre n'est ni celle d'une famille rassurante, ni définitivement à lui. Il est encore en transit, Oumar, aidé par le gouvernement français parce qu'il est arrivé mineur, mais il sait que son avenir, il doit le construire avec sa propre volonté, et cela exige une énergie titanesque. Pour se détendre, il écoute Maître Gims et Oumou Sangaré, une artiste malienne, femme engagée, qui s'insurge contre la polygamie. Il est entre deux cultures, entre deux vies, et s'il ne décore pas sa chambre plus que ça, c'est parce qu'il sait qu'il va encore déménager. Il nous dit qu'il n'y a pas grand-chose dans la maison, que peut-être après, quand il aura son propre appartement, il y mettra beaucoup de choses, des photos de joueurs, des équipes de foot, des fleurs. Il nous raconte qu'il va déménager à Béziers parce que son patron dit que c'est pénible de venir le chercher tous les matins en voiture, et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Il n'a pas encore le permis, alors il faut qu'il déménage à Béziers. Avant le second entretien, je me dis « Bah tiens, si je trouvais une jolie fleur en pot pour Oumar. Après tout, pourquoi attendre encore? Il a bien le droit à une fleur pour embellir sa chambre. C'est pas grand-chose, une fleur. » Alors je lui en offre une un soir, juste avant son entraînement de sport. Je suis même un peu gênée de l'encombrer avec ça avant le foot. Je m'en excuse, le moment est vraiment mal choisi, lui dis-je. Quand soudain, le visage d'Oumar s'éclaire. « Je suis content, » répète-t-il. Si content. C'est fou ce que m'offre Oumar à cet instant, mille fois plus que ce que je viens de lui donner. Ce n'est pas de la gratitude ni de la politesse, mais la joie éclatante de l'enfance. Une petite fleur, c'est rien, c'est tout, c'est toutes ces belles choses qu'on ne voit plus, toutes ces petites attentions qu'on oublie, et peut-être pour un jeune qui a tant enduré, une légèreté de l'être, enfin, retrouvée. C'est ce que me dit Oumar dans son sourire, le plaisir d'avoir droit à ce qui n'est pas essentiel, et pourtant vital. Oumar a découvert l'école en France. Il a appris à lire ici et en français, parce que le malinké et le soussou, ce sont des langues qu'il n'écrit pas.
Ouais, ici quand même, franchement, à l'école. Hein. Non.
Mais ça fait plaisir à voir.
Ça fait plaisir à voir l'école, hein.
Que tu as envie d'apprendre, ouais. Aussi, ça c'est super à voir.
Ouais.
C'est réjouissant. Un jeune qui a envie d'apprendre, tu vois.
Parce que moi, ça cause ça. Moi, je me suis arrêté lorsque mon père ne vit plus. Donc, je me suis arrêté.
T'avais quel âge quand t'as arrêté l'école?
J'avais 14 ans.
14 ans.
Oumar n'a pas connu sa mère. Il avait 8 mois lorsqu'elle est morte. Il a été élevé par sa grand-mère paternelle, Fatoumata, et son mari Ousmane, aujourd'hui décédé, et dont il a accroché le portrait photographique dans sa chambre. Une photo postée par un de ses oncles. Il sait qu'il doit beaucoup à sa mamie, et que contrairement à pas mal de garçons livrés jeunes à eux-mêmes, elle lui a transmis une bonne éducation. Il dit qu'il félicite ses grands-parents parce que sa grand-mère l'a aimé, elle lui laissait pas faire n'importe quoi, pour aller au foot, elle le frappait. Et alors il dit évidemment, moi je l'écoutais pas, j'y allais quand même, avec malice, dit-il, mais elle pensait qu'il allait se blesser, se casser un pied, un bras. Elle lui disait d'étudier, de ne pas sortir jusqu'à 23 heures, qu'il devait tout le temps rentrer à 22 heures. Et ça, c'est important pour Oumar. En juin 2021, il décroche son CAP en plomberie d'installateur thermique avec une moyenne générale de 13. Il en est fier et heureux. Il voulait poursuivre en bac pro, mais il n'a pas trouvé de patron pour l'alternance. Il nous raconte qu'il a contacté plusieurs patrons pour l'apprentissage, au moins 80 entreprises, et que toutes lui ont répondu négativement. Alors, il a changé de métier. Il a trouvé un patron l'été pour un CAP en carrelage et il s'est lancé dans cette voie. Sur son petit bureau sont empilés tous les classeurs des cours des années précédentes. Il aime les avoir là, à portée de main, pour se souvenir du chemin parcouru et envisager l'avenir dans un métier qu'il aime.
Et ça se passe bien là,
le travail, oui, ça se passe bien, ouais.
Avec le patron.
Ah ouais, le patron, pour le moment, ils sont gentils.
Ça te plaît?
Oui, ça me plaît. Ça me plaît bien.
Autant que le premier CAP?
Non, le premier CAP, j'aime bien.
C'est ça,
hein,
t'aimes ça. Hein,
ouais, j'aime bien plomberie.
Ouais.
Mais c'est parce que je n'ai pas trouvé patron pour ça, donc c'est pour cela.
Tu vas y revenir après?
Ouais. Ouais, je pense que je vais revenir après. Hein. Après CAP, là, je vais voir encore si je peux faire BP ou bien. Mm. Ou bien bac pro en apprentissage aussi à plomberie.
Ouais, bien
mais
sûr.
Je vais quand même finir celui-là, là, et après. Ouais. Si je trouve bac pro, si je peux faire bac pro, je vais chercher bac pro en plomberie en apprenti.
Tu vas faire des études pendant encore plein d'années, ouais. Jusqu'à 25 ans, après mariage. Ouais.
Je vais m'arrêter à comment il s'appelle, bac pro ou bien.
Bac pro, c'est bien, ouais. Hein, t'as les capacités, oui. Comme tu t'exprimes en français, si t'aimes ça. Accroche-toi,
c'est... Au BTS, si j'ai la possibilité.
Ouais, attends. Va le plus loin que tu peux.
Ouais.
On peut que t'encourager. Hein. Si tu peux continuer, continue.
Oui, mais études, ça finit jamais.
Ouais.
Surtout ouais. Ici en France, études, ça finit jamais.
Oumar adore apprendre et pour tenir le coup, il s'est organisé un agenda de ministre pour y inclure le travail, les cours, le foot, les loisirs, la pratique de sa religion et du français. Il se lève à l'aube, fait sa prière sur son beau tapis bleu, se sert un petit café, se recouche pour potasser au lit son manuel et ses exercices de grammaire avant de partir au travail ou en cours. « C'est un peu dur », nous avoue-t-il pudiquement en riant. Il est plein d'entrain, d'énergie, d'envie et il s'accroche à sa grammaire qu'il travaille seul maintenant ou avec les bénévoles pour poursuivre ses études. Il a soif de culture, de savoir, et nous fait remarquer qu'ici on apprend beaucoup de choses, même au-delà de l'école. Il y a des livres partout, des ordi, des connexions Wi-Fi, une vie riche qui n'a rien à voir avec celle qu'il a connue au pays.
Et l'école là-bas, c'est un peu dur parce que l'école c'est cher.
Ouais.
Et puis aussi, y a plein de familles qui n'ont pas beaucoup de moyens à financer leurs enfants à l'école parce que l'école c'est cher. Donc c'est pour cela, il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'arrêtent après.
Ici, le fait que l'école soit gratuite, tu trouves que c'est une bonne chose?
Ici?
Ouais.
C'est trop bonne chose.
Ouais.
C'est très très intéressant. Moi, la première chose, moi j'ai remercié la France, c'est l'école. Hein? L'école quand même, ils ont une bonne éducation. Hein?
Je lui demande s'il pense retourner au pays pour faire changer les choses un jour avec ce qu'il aura appris. Oumar ne l'imagine pas, sauf pour d'éventuelles vacances. Il nous confie qu'il n'a plus vraiment de famille ni de maison et que la vie là-bas, c'est difficile. Un silence s'ensuivra. Dans la vie d'Oumar, les femmes de la famille ont joué un rôle majeur. Fatoumata, sa grand-mère, l'a élevée. Fadima, sa demi-sœur de 13 ans, lui donne envie de réussir. Il veut l'épater, lui apprendre quantité de choses quand il la reverra. Quant à la troisième, Fanta, sa grande sœur, même père, même mère, nous précise-t-il, c'est avec elle qu'il est parti. Il lui doit cet avenir ici, qui se dessine sans elle, en attendant que peut-être un jour, il ait de ses nouvelles. Ce récit de la route, âpre, douloureux, forcément violent avec Fanta, il nous le contera à la fin des entretiens, calmement, avec pudeur et dignité, comme pour nous dire « ben voilà ». Maintenant, vous savez vraiment qui je suis. En attendant, c'est devant le portrait de sa sœur Fadima que nous nous arrêtons. La photo date de cet été, elle lui manque, il lui téléphone parfois, quelqu'un lui passe le combiné parce qu'elle n'a pas de portable. L'occasion de reparler des nouvelles technologies en Guinée, mais aussi des différences entre filles et garçons.
C'est facile d'avoir la téléphonie, ça fonctionne bien en Guinée?
Oui, ouais, ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien.
Mais seulement sur la connexion, c'est très cher.
Ah ouais.
Ça facture cher. Hein.
Ouais. Là, toi où tu habitais, il y avait la Wi-Fi ou pas?
Non, le Wi-Fi qui est le bureau ou bien qui est le riche qui.
C'est cher.
Voilà, c'est cher.
Ok. Donc pour les recherches sur Internet, comment tu fais là-bas? Il y a des bars ou...
Ouais, il y a des. Il y a des coins qui font recherche, par exemple, on va là des 2 euros, 3 euros, comme ça, on peut faire connexion avec ça. Il y a d'autres qui prennent un jour, quand tu fais, il y a 2 euros pour un jour, il y a 3 euros pour 24 heures. Donc, ça fonctionnait comme ça.
Nous revenons à Fadima qui n'a pas de téléphone. Les filles en seraient-elles privées?
Non, c'est égal, mais chez nous, des fois, les parents n'acceptaient pas les filles à utiliser ce téléphone parce que comme cela, chez nous, les filles, les jeunes filles, donc au téléphone, donc peuvent profiter avec les mecs et tout ça. Alors chez nous, des fois, les filles comme cela, c'est interdit de...
Elles ont moins de liberté.
Exactement, ouais. Parce que nous, ils sont interdits de faire l'amour avant de se marier.
Oui.
Donc c'est pour cela, si les parents ne contrôlaient pas les filles, et puis ils vont profiter de faire n'importe quoi avant qu'ils se marient.
Ah, ils pensent à ça, ils pensent
voilà,
à...
donc c'est pour ça,
avec téléphone
qui commence... Non, mais ils commencent à avoir relation avec le téléphone, comme ça. Ça commence le téléphone, message, texto, comme ça. Et après, relation, ça vient petit à petit. Et après, maintenant, bon. Il y a beaucoup quand même qui ne donnent pas téléphone à leur fille à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc,
ça se pratique plus.
Voilà. Il y a d'autres qui sont téléphonés, mais il y a d'autres aussi encore qui interdisent à leur fille de téléphone.
Et les garçons, tu disais dans la religion musulmane que je connais quand même, effectivement, il y a ce truc, normalement, ils ne doivent pas non plus faire l'amour avant le mariage.
Oui, normalement.
Normalement.
Oh, ouais.
On est d'accord.
Oui.
Comme pas mal de musulmans et musulmanes que j'ai croisés, et comme c'est le cas dans la plupart des religions monothéistes, Oumar sait très bien que cette histoire de virginité partagée avant le mariage ne concerne en réalité que les filles. Je ne m'attendais pas à en rencontrer Oumar, aborder avec lui des sujets si délicats. Ce jeune homme est surprenant, son esprit vif, ouvert, et s'il ne renie pas sa culture ni sa religion, on sent toujours chez lui l'envie de progrès, le besoin de confronter les points de vue, de se nourrir d'autres cultures. Il nous précise encore qu'en Guinée, les filles se marient plus jeunes que les garçons, vers 16-17 ans. Et j'en profite pour évoquer le mariage forcé, sujet de mon dernier roman. Il semble très intéressé par mon histoire. Je ne sais pas encore que de façon indirecte c'est exactement ce qui sera la cause de son départ. En attendant, nous poursuivons la conversation cette fois autour des mariages arrangés et Oumar nous indique que c'est ce qui se pratique traditionnellement chez lui, mais que les filles se débrouillent comme elles peuvent pour y échapper. Il nous explique que les filles ont désormais accès à la contraception plutôt sous une forme d'implant sous-cutané, plus discret que la pilule pour cacher une relation, mais aussi que l'avortement fait beaucoup de dégâts. Il n'est autorisé en Guinée que pour raison de santé. Alors les filles, comme chez nous, avant la loi Veil de 75, mettent leur vie en danger en avortant dans des conditions sanitaires déplorables. Oumar, qui est en Europe depuis 4 ans et 2 ans en France, a eu le temps d'observer tout ça et de constater...
C'est pas pareil du tout, hein?
C'est pas pareil du tout.
Parce que les filles ici, elles sont en liberté, elles font ce qu'elles veulent chez nous, non?
Ouais.
Les filles sont tout le temps gardées. Hein.
Je lui rappelle que l'égalité n'est pas acquise ici non plus, qu'il reste du chemin à parcourir sur toute la planète pour obtenir cette égalité, il en convient. On observe de nouveau la chambre pour repartir du décor, des objets de détail. Oumar trouve qu'il n'y a pas grand-chose de très joli dans sa chambre. La déco, ce sera pour plus tard, quand il aura son chez-lui, son appart, sa vie et ses diplômes à main. En attendant, il nous ouvre les portes de sa penderie pour nous montrer ses vêtements impeccablement rangés sur cintre. Ses chaussures sont alignées, je repère des mocassins en peau très chic. Le look est important. Il trouve les gens ici tous très bien habillés, il adore ça. C'est en France qu'il a appris à utiliser une machine à laver, parce qu'au pays, ce sont les filles qui font la lessive et à la main. Il sait aussi repasser, mais il préfère étendre ses chemises sur cintre, pour l'éviter. Il a appris beaucoup de choses ici. Il pense qu'ainsi plus tard, il pourra aider sa femme dans la vie de couple partagée. Et cette petite valise neuve à roulettes devant son bureau alors, je lui demande, à quoi elle sert ? À prendre soin de mes nouveaux vêtements, dit-il. Cette valise, c'est pour quand je voyagerai. Je repense aux habits moisis de son sac de départ. Oumar a choisi une valise étanche et robuste cette fois, pas hasardeux. Un jour, nous dit-il, il mettra 2-3 pantalons dedans et puis il s'en ira aux Pays-Bas, à Paris, Barcelone pour voir un match, tiens, au Barça. Un jour, c'est sûr, il voyagera avec un aller et retour en poche, un vacancier comme les autres, Oumar, libre de circuler. Étonnamment, l'idée de rester coincé 4 heures dans un TGV l'angoisse. Je m'en étonne de la part d'un garçon qui a traversé tant de pays. L'occasion pour lui de refaire marche arrière. Il en a envie. C'est important de raconter. Parce qu'il y a Fanta derrière lui. Et puis les autres, les morts et les vivants, toute son enfance. Et Oumar, même s'il avance, ne veut rien cacher, rien oublier. Cela désormais fait partie de lui. Il m'explique alors qu'en quittant la Guinée, il a voyagé lentement. 2-3 heures par jour, pas plus. Avec Fanta, sa grande sœur, il passait des semaines sur place, d'un endroit à l'autre. Au début, il ne s'agissait pas d'aller si loin. Au début, c'est juste que Fanta et Oumar, chez eux, ne pouvaient plus rester. Depuis la mort de leur grand-mère, ils vivaient avec Mamarad, la seconde épouse de leur père, la maman de Fadima, qui un jour a voulu marier Fanta de force à son frère, un homme plus âgé qui vivait à Conakry. L'homme vient la voir, veut l'emmener, Fanta refuse. Elle désire être couturière, elle l'aime pas, elle a du caractère. Alors quand Mamarad, pour se venger, refuse de les nourrir, Fanta prend la décision de partir. Et c'est calmement, et d'une voix douce, sans colère ni rancœur. Oumar va nous raconter ce qu'avec sa sœur, il a traversé.
Ouais, ben c'est elle qui nous a guidés maintenant. Parce qu'on est sortis aussi pour aller à une autre ville. Donc il y a un autre monsieur aussi qui nous trouve à la gare comme ça, on était assis, donc il nous a demandé, on a expliqué nos cas avec le monsieur. Donc maintenant, monsieur là, il dit, donc on va partir, on va rentrer chez lui au Mali, parce que je ne sais pas lui, au moins 20-30 km comme ça, entre la frontière et là-bas. Donc on est parti chez monsieur là aussi encore. C'est le même cas, le monsieur là aussi, il a joué sur ma grand-sœur.
Il avait tes yeux sur ta grande
soeur. Ah, exactement. On est parti. C'est pour lui-même qu'il voulait coucher avec ma,
ouais.
avec ma soeur. Ben, elle n'est pas. Parce que ma soeur, il avait son 19 ans. Donc, il était un peu grand. Donc aussi, ma soeur n'est pas acceptée, celui-là. Ben, on avait téléphone, elle avait téléphone. Donc, elle a vendu son téléphone là-bas. Donc, il y a un monsieur qui dit, si on peut aller à Libye, donc il y a des personnes qui travaillent là-bas, les filles travaillent là-bas. Donc, maintenant, on a vendu ce téléphone-là et on a eu transport et puis... on est venu en Libye. Donc maintenant, Libye, maintenant, c'est là-bas qu'il nous a séparés entre, parce que là-bas, il sépare entre les filles et les garçons. Donc c'est là-bas que je suis séparé avec ma soeur depuis fin 2017, 2018.
D'accord.
Donc depuis ces jours-là, donc je n'ai plus de nouvelles de ma soeur.
Tu n'as plus de nouvelles de ça.
Je suis demandé à Croix-Rouge en France ici, donc et quand même, ils sont en train de... Je n'ai plus son nouvel et aussi il n'ai plus mon nouvel. Donc jusqu'à présent, je ne sais pas, il vit ou bien il ne vit plus, je ne sais pas.
Après un silence, Oumar poursuit. En Libye, il se retrouve dans un camp plein de jeunes de son âge, ils sont obligés de travailler. Il remarque un homme plus âgé, malade. Personne ne s'en occupe, mais on le force à travailler. Oumar ne s'arrête pas sur les conditions déplorables sanitaires ni sur la violence des camps libyens. Il ne parle pas de lui, mais de cet homme qui va mourir au milieu d'eux comme un chien et déclencher l'indignation générale. Les jeunes pleurent, crient, s'insurgent, alors les geôliers emportent le cadavre et précipitent le départ du groupe. Il nous dit que le même jour, ils les ont fait sortir, les ont conduits au bord de l'eau, les ont mis dans un bateau pour l'Italie. Ils sont une centaine d'hommes à traverser la Méditerranée. Je lui demande s'il a eu peur. Oumar est parti pour que sa sœur échappe au mariage forcé. Il ressemble à ce héros de fiction que j'avais imaginé, un garçon d'aujourd'hui qui, parce qu'il a vu la violence des hommes, réclame une terre de paix, un monde équitable, dans lequel filles et garçons auraient tous accès à une vie normale, avec des droits, des devoirs, un toit, une dignité, du calme et des fleurs dans la maison. Grâce aux garçons comme Oumar et à tous ceux et celles qui ont le courage de venir de si loin nous le rappeler, je reprends espoir. Je me dis que ce serait possible, si nous savions, au lieu de fermer nos frontières, leur ouvrir nos bras et les accueillir comme nos propres enfants. Parce que ce sont des gamins, ces garçons qui marchent seuls, des gosses privés de tout, et qu'on y est forcément pour quelque chose. Juste avant notre entretien, le président guinéen Alpha Condé s'est fait renverser, par ce que les médias ici ont nommé un coup d'État. Mais que tous les Guinéens que j'ai rencontrés, et d'après eux la plupart des jeunes du pays, ont appelé une libération. Si Oumar ne tient pas vraiment à parler politique en général parce que, constate-t-il avec sagesse, les gens finissent toujours par s'engueuler, surtout dans son pays où il y a tant de cultures et de langues diverses, il a pourtant un avis très tranché sur la mauvaise gestion de son pays. En me documentant, je découvre que la migration des jeunes Guinéens n'a cessé de progresser ces 3 dernières années en Europe et représente sur une moyenne de 30% la première nationalité des mineurs non accompagnés pris en charge en France. Le délabrement et la privatisation du système d'éducation, de santé, le chômage, la corruption sont largement dénoncés par ces jeunes qui n'ont eu accès à la mondialisation que par des images Internet. C'est l'absence d'horizon qui les a poussés à partir pour trouver ailleurs ce qu'on leur refuse au pays, une vie normale. Une vie comme sur les images qu'ils regardent devant leurs écrans, mal connectés. Pour Oumar, aujourd'hui, c'est sûr, il est arrivé. Il ne reviendra plus au pays, sauf peut-être pour des vacances, en tant que touriste, avec dans sa valise bien étanche des papiers français. Ce podcast a été réalisé à Pézenas dans le cadre de la résidence Chambre adolescente, projet de Juliette Masse et Jovitech. Sur ce territoire, avec l'association Samanras et le soutien du service culturel de la ville de Pézenas.